Yofi.
Les Koulam, et on revient dans notre étude du Rav Avraham Yitzhak HaKohen Kouk, Morenu ve Rabenu Ateret Roshenu, le patron du processus de la Géoula et comment il va nous l'expliquer. Il s'appelle Eretz Israël. Nous sommes arrivés au chapitre 6. Ok ? Donc, de quoi on a parlé jusqu'à maintenant ? Jusqu'à maintenant, on a parlé donc de l'essence même du lien qui existe entre page Yud Aleph. Donc, on a parlé dans la première, dans le premier paragraphe de l'essence du lien qui unit le peuple juif à la terre d'Israël. Deuxième paragraphe, on a expliqué que ceux qui ne comprennent pas ce lien, c'est les gens qui se sont éloignés de Torah ta Kabbalah. Dans le troisième paragraphe, on a expliqué que seul en Eretz Israël, Am Israël peut produire quelque chose de propre à lui. Dans le quatrième paragraphe, on a appris que l'endroit influe sur la réflexion. On n'a pas la même réflexion quand on est ici et quand on est là-bas. Dans le cinquième paragraphe, on a parlé du dimion, la force de l'imaginaire qui est tellement différent entre là-bas et ici. Ok ? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire maintenant ? Perek, Vav, Peulat, Ruach HaKedusha, Anikletet Be'eretz Israël, Poelet Hi Tadir. גם אם נזדמן הדבר ויצא האדם חוצה לארץ על ידי טעות או על ידי איזו סיבה מוכרחת. טוב, alors de quoi on est en train de parler?
De nos parents, de nos grands-parents qui étaient obligés d'être en galoute, qui sont nés là-bas, malgré eux.
Et toi, tu t'es cantonné sur la fin de la phrase?
Oui.
C'est ça, c'est important. Enfin, le shiur, il est Leilui Nishmat, Laurence Esther Tova, Bat, Liliane, Léa. Ok ? Donc non, on ne peut pas se contenter juste de la fin de la phrase. Et là, on va essayer de comprendre de quoi on est en train de parler. Yesh ?
C'est l'endroit où on a le plus d'attirant de la Kedusha. C'est l'endroit, même quand on va cette Kedusha, on la porte avec nous. C'est-à-dire qu'on s'imprègne de ça.
Alors ça, tu as tout à fait raison. Qu'en Eretz Israël, il y a... Alors, non. Ce que tu dis est très vrai. Mais ce n'est pas ce qu'il y a marqué ici. Non, parce que tu as oublié un mot.
Nikletet.
Oui, non, Nikletet, t'as raison, mais le problème, c'est pas la Kedusha qui est Nikletet. Ça, t'as oublié un mot qui change. Ce que t'as dit est très vrai, d'ailleurs. Ce que t'as dit est très vrai, tu as dit qu'en Eretz Israël, tu.
C'est ce que je dis, c'est ce
qui a marqué. Alors, non, tu vas voir que t'as oublié un mot. Un mot qui change, en fait, le sens. Je dis simplement que ce que tu dis est vrai, qu'en Eretz Israël, tu réceptionnes mieux la Kedusha. C'est Nachon. Tout à fait vrai. Mais c'est pas ici ce qu'il veut nous enseigner. Puisque ici, il ne parle pas de la Kedusha, mais il parle de c'est quoi qui est Niklat ? C'est Ruach HaKedusha. Ruach HaKedusha, c'est ce que nous, on va appeler en hébreu moderne Ruach HaKodesh, ou alors les bribes de la prophétie. C'est-à-dire qu'on ne parle ici pas seulement de la Kedusha qu'il y a dans la terre d'Israël ou dans une mitzvah que tu vas faire, mais il y a, et ça, c'est quelque chose qu'on a oublié, mais qui est quand même le plus important. Eh bien, quand on parle de lien entre la créature et le créateur, c'est quoi ce lien ? Ben, ça dépend de quelle créature on parle. C'est-à-dire, si on parle du lien qui existe entre le monde et le créateur, eh bien, ce lien, c'est la création. Mais si on parle du lien qui existe entre l'homme et le créateur, eh bien, c'est la névoie. Or, la névoie, qui est donc ce qui nous fait être en connexion avec Dieu, eh bien, la névoie, non seulement elle s'est arrêtée depuis pas mal d'années, mais en plus, elle a des règles bien spécifiques. qu'est-ce qui nous reste depuis qu'il n'y a plus de Nevoa ? Il nous reste ce qu'on appelle Ruach HaKodesh. Pas de la Nevoa, mais des vestiges de quelque chose. Eh bien, là, le Rav Kook nous dit Peulat Ruach HaKedusha Nikletet Beretz Israël Poelet Itadir. C'est-à-dire qu'ici, il y a toujours ce lien avec, alors si ce n'est pas la Nevoa, eh bien, c'est les bribes de quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Donnez un exemple qui montre à quel point.
Mais des voix pour Matan Torah.
C'est la même chose.
C'est pour un homme.
C'est la même chose. Matan Torah, comme tu le sais, ce qu'on va fêter dans deux semaines, n'est absolument pas le don de la Torah. Parce que, comme tu le sais, à Shavuot, on n'a pas reçu la Torah. Tu le sais bien. À Shavuot, on a reçu le Dibour. La Torah, on l'a elle-même, on la recevra à Yom Kippour. Mais on a reçu le Dibour. Donc, Mahamad Har Sinai, c'est la Nevoa. C'est le moment où la Nevoa n'est plus seulement l'apanage d'un homme, mais elle devient la propriété du peuple juif. Ok ? Donc, Nevoa, Mahamad Har Sinai, Otodava. D'accord ? Donc, où est-ce qu'on peut voir eh bien, cette différence entre Eretz Israël et Chutz La'aretz au niveau de Peulat Ruach HaKodesh ? Mais j'ai mis un exemple très simple. On peut voir la différence fondamentale qu'il y a entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. C'est-à-dire, eh bien, il y a dans le Talmud, que ce soit Babylone ou Jérusalem, deux styles de textes. Il y a des textes qui sont halakha et il y a des textes qui sont agada. Ok ? Dans le Talmud de Babylone, la séparation est claire entre Halakha et Agada. Et non seulement la séparation est claire, mais jamais le Talmud de Babylone n'est possek Halakha Alpi Agada. Ok ? C'est deux dimensions différentes. Halakha za sechel, Agada. Donc on ne va pas être possek Halakha dessus. À Talmud à Yerushalmi, le Talmud de Jérusalem, qui a été écrit où ça ?
À
Tibériade. T'étais pas loin. À Tibériade, n'achon pas à Jérusalem. Le Talmud de Jérusalem, eh bien, lui, la frontière entre Halakha et Agada, elle est extrêmement... elle est volatile, quoi. Elle n'existe presque pas. Et on va pouvoir très souvent être possèk Halakha alpi Agada. Par exemple, d'après le Talmud de Babylone, on n'a pas le droit de prendre un loulav yavesh pour Soukot. On n'a pas le droit de prendre un loulav, un branche de palmier sèche. Lama. Pourquoi on n'a pas le droit de prendre un loulav sec ?
Parce qu'il a été coupé. Il faut que tu
l'entends. Non, tous les loulavs, ils ont été coupés.
Oui,
tu ne les prends pas de l'arbre.
Parce qu'il n'est pas frais.
Parce qu'il n'est pas frais. Nous ?
Parce
qu'on fait toute une étude des versets. Et qu'on te dit que Zetzarech Liot, Kachour, le prix, et Sadar, et que donc ça doit être une jolie, et ça doit être une Yavesh, c'est pas joli, machin. On fait une étude de texte. Et l'étude de texte va nous amener à la prise de conscience à l'Arik, qu'on n'a pas le droit de prendre un Loulav Yavesh. Dans le Talmud de Jérusalem, on n'a pas le droit de prendre un Loulav Yavesh non plus. Mais sauf que la raison, c'est un verset du Tanakh qui dit Lo Ametim Yalelu Ya. Les morts ne glorifient pas Dieu. Or, eh ben, le loulav yavesh, il est mort, donc pas possible. Tu comprends que ce n'est pas du tout un argument intellectuel. C'est un argument de Haggadah. Mais là-bas, on n'a pas de problème. Pourquoi est-ce qu'on fait cette grande différence ? Eh bien, les amis, c'est très simple. Parce que...
On
ne
fait pas ça dans le
Talmud Bavli. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a cette différence-là ? Eh bien, tout simplement, parce que Béret Israël, Peulat Ruach HaKedusha, eh bien, elle est toujours là. Et donc, c'est au milieu de notre étude de la Halakha, la Haggadah, elle est présente. Oui ?
Dans la phrase, là,
oui,
il y a un mot qui me gêne.
Dis-moi.
À la fin de la phrase, il y a marqué « Tadir ».
Oui.
On ne voit pas dans les rues de Jérusalem des gens qui amènent des courottes, qu'on peut la traverser.
Bien fait. Très bonne question.
Peut-être, mais
tu dis… Tu dis, il y a marqué ici qu'en fait, cette Péoula-là, elle reste en Eretz Israël, t'as dire, tout le temps. Tu dis, on ne voit pas de gens qui sont là, qui se promènent, qui sont prophètes. Tout le temps. Tout le temps.
C'est fréquent.
Tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire, c'est tout le temps. OK ? Effectivement, de prophétie, tu n'en vois pas dans les rues. Parce que la prophétie a cessé depuis 2300 ans. Aval, et c'est là que le Rav Kook vient t'expliquer, la Péoula du roi HaKodesh en Israël, oui, elle est présente tout le temps en Israël. Comment ? Eh bien, justement, l'exemple que je t'ai donné, c'est un exemple que dans le Talmud de Babylone, on continue à utiliser la Haggadah, c'est les vestiges de la prophétie. Et donc, on continue à utiliser ça. Ça fait partie de notre ADN d'étude de Torah. Alors que là-bas, non.
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'étude de la Gemara, de la Hot, de tout ça.
C'est ça, ça veut dire que... Non. Il y a des choses qui sont des vestiges de la Nevoa et il y a des choses qui ne sont pas des vestiges de la Nevoa. La Halakha, ce n'est pas un vestige de la Nevoa. La Halakha, après que Dieu nous ait parlé, le débat talmudique, halakhique, c'est Sechel.
On fait le limoud.
Alors, c'est ce que je te dis. Le Rav Kook te dit, Nachon, mais dans le limoud, il y a limoud et limoud. Il y a un limoud qui fait une séparation complète entre Halakha, ce qu'il faut faire, et Agada, ce qu'il faut penser et comment, qui on est. Et en Eretz Israël, il n'y a pas cette séparation. Parce que la Péoula, l'action du roi HaKodesh, elle est présente en Israël malgré la fin de la Névoa. Quand il y a la Névoa, je ne t'en parle même pas. Mais quand il y a la fin de la Névoa, il y a toujours cette Péoula de roi HaKodesh ici en Eretz Israël. Prenons un autre exemple que vous connaissez peut-être très bien aussi. Il y a des rabbins qui étaient déjà des grands rabbins en Chutz La'aretz et qui sont venus en Israël. C'est plus les mêmes. C'est plus les mêmes. C'est devenu des rabbins de Ligue des Champions. C'est plus les mêmes. Et on voit même une influence dans l'écriture. Le Rav Kook, quand il est en Chutz La'aretz et qu'il écrit, on a vraiment l'impression, d'après le Ktav Yad, hein, d'après, je parle l'écriture en elle-même, pas ce qu'il dit. L'écriture en elle-même, en Chutz La'aretz, Zemesouda. Quand il arrive en Israël et qu'il écrit, tout change. L'écriture a changé. On dirait que ce n'est pas le même mec qui écrit. Les lettres sont beaucoup plus arrondies, ça part dans tous les sens. Il y a Shefa Ruach HaKodesh qui est en train d'arriver et c'est complètement déstructuré parce que y a la Kdusha qui arrive dans tous les sens. Maintenant, ici, ce que nous dit le Rav, c'est que cette Péoula, elle existe tout le temps. Gam imnis damen adavar, même si il est arrivé que l'homme en question yatsa le chutza la'aretz. O aliede taout, o aliede zosiba mukhachat. Dit quelqu'un qui a ce tuyau de Ruach HaKodesh qui est branché chez lui, même s'il part en chutz la'aretz, alors ça continue. Donc, on a dit, par exemple, Rabbi Nachman de Breslav. Rabbi Nachman de Breslav, il vient en Eretz Israël. Il était déjà Rabbi Nachman avant de venir en Israël. Quand il arrive en Israël, il ne va pas y rester longtemps en Israël. Il reçoit un bonus de Ruach HaKodesh énorme. Et quand il repart, parce que c'est l'époque de Napoléon et c'est l'époque où c'est impossible de vivre ici concrètement, il repart et il dira à tous ses élèves que la Torah qu'il a acquise pendant les quelques temps où il était en Eretz Israël, ça éclipse complètement toutes les années de Torah qu'il a enseignées avant. Et sa nouvelle Torah, c'est la Torah d'Eretz Israël. Rien à voir avec ce que j'avais avant.
Parce qu'il soit enterré en Ukraine.
Il est mort là-bas, je vais le faire. Il dit qu'il faudrait ramener ses ossements en Israël.
Ah
oui, bien sûr. Non. Je t'invite à... Tu vois, tu te rappelles ce que tu disais tout à l'heure sur les No Man's Land et tout ça, machin ? Bon, bah, Ouman, ça fait partie de ces No Man's Land. Bon, c'est pas l'État d'Israël, tu vois, mais essaye. On verra. Peut-être qu'on te retrouvera, peut-être qu'on ne te retrouvera pas. C'est ça ? Bekitsou, donc ça, c'est un exemple. Oui ?
Il y a quelque chose un peu ressenti. La personne qui vit ici et qui part en cours pour une raison quelconque. Et moi, j'ai ressenti très fort ça. J'allais voir mes enfants. J'arrivais à l'aéroport, si mes parents étaient là-bas, je ne pouvais pas rester. Je ressentais très fort que C'était pas ma place.
Alors ça, tu vas voir, après, tu vas voir ce que tu viens de dire va avoir une résonance un petit peu plus tard dans le texte. Alors, donc, voilà, celui qui est en Israël et qui part au allié des Taout, au allié des Siba Mouchachat. Comment ça peut être allié des Taout? Non, mais c'est le Taout.
Il a fait l'erreur de l'appréciation.
Non, là, pour lui, c'était une Siba. Taout. Taout, pas Chout. Taout, ça veut dire que ce n'est pas de sa faute. Il faut dire que Ben Adam est faute. C'est arrivé à plein de gens qui ont été exilés par les Turcs. Pendant la Première Guerre mondiale, toutes les personnes qui étaient en Israël, les Juifs, qui n'étaient pas des sujets de l'Empire ottoman, ont été dégagées d'Eretz Israël.
Hein ? Ils sont partis où ?
Bah, tu retournes en Russie, moi je m'en fiche. Ça, parce que la Russie, elle n'était pas avec l'Empire ottoman, donc... Eh ben, vous êtes des espions, vous avez des trucs. Bon, ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Ça peut arriver que quelqu'un, bah, il est mis dehors. Donc, c'est Taout. Oh, Aliyede, Siba, Mouhrahat. C'est une obligation. Ça peut être une obligation familiale, ou ça peut être, par exemple, le Rav Kook, qui part en, à la fin de l'année 1913. Pourquoi il part? Il était bien en Israël.
Pour représenter justement les intérêts de l'Israël.
Le congrès.
Quel congrès?
Le congrès des rabbins, non?
Voilà. Il y a la Veïda de Agudat Israël, et il a été invité par l'Agudat Israël, par en l'occurrence le Hafetz Chaim, pour parler de comment il faut se battre contre l'assimilation. Et le Rav Kook est invité d'honneur d'Eretz Israël pour parler de la version Eretz israélienne. Comment on se bat contre l'assimilation. Et donc il dit, c'est Dvar Mitzvah, Nechayav Lalechet. Donc il y va. Mais quand il y va, bah, la Première Guerre mondiale éclate et il est bloqué en Europe et il ne peut pas repartir, pas rentrer. Sauf que, à un moment, alors il y a plein de péripéties, hein, il va passer par la Suisse, de la Suisse il va arriver en Angleterre et à un moment donné, il va écrire là-bas en Angleterre un livre qui s'appelle « Resh Milin ». Regarde, il y a plein de parties du livre « Oroth » qu'il a écrit aussi quand il était en Angleterre. Mais le livre « Resh Milin », il l'écrit quand il est en Chutz Laaretz. C'est quoi ce livre? C'est Kol Kulo Kabbalah. Est-ce qu'on va l'étudier ensemble? Pas tout de suite. Parce que on ne va rien y comprendre. Donc ça ne sert à rien. C'est un livre dans lequel le Rav explique quelle est la signification de chacune des lettres de l'alphabet hébraïque. Autant te dire qu'il faut s'accrocher. Ok, donc c'est un livre comme ça, Kol Kulo Ruach HaKodesh. Le livre parvient à Jérusalem. Il envoie une copie à son élève qui est toujours à Jérusalem, à Rav. Non. Non. Non plus. Non plus. Rav Tzviyuda, il est aussi en Europe à ce moment-là. C'est pas encore son élève, c'est son fils pour l'instant. Non, il y a un autre qui est son grand élève. Son premier grand élève. Bon, il y a son fils, c'est son fils. Mais son premier grand élève, c'est
Goren.
Non.
Ben Eliezer.
Yoda Ben Yoda, tu parles.
Ils
avaient des contacts, bien sûr, mais c'était son élève. Enfin. Agaon. Ben non. Non, mais d'accord, mais non, mais moi j'ai tendance à penser que c'est vrai, mais ça en fait pas son élève. Il y est resté quoi? Même s'il y était, il y a été quelques mois. C'est pas... Non, il avait un grand élève. Et le Rav Kook, il avait trois élèves. Il avait son fils. Plus tard, il a eu le Rav David HaKohen à Rav HaNazir. Mais le premier qui s'est attaché au Rav Kook et en fait qui lui a ouvert les portes d'Eretz Israël, parce que comme lui, il était déjà considéré comme un Gadol Batorah, le fait que ce Gadol Batorah se soumette au Rav Kook, eh bien, ça lui a donné la légitimité aux yeux de tous les rabbins d'Eretz Israël. Ce monsieur, c'était Agaon Arav Yaakov Moshe Harlap. Ok ? Arav Yaakov Moshe Harlap. Je vous invite à retrouver le cours que j'ai donné sur le Rav Harlap dans la série des cours sur les personnages. vous marquez Rav Yaakov Moshe Harlap sur ma chaîne YouTube et vous retrouverez l'histoire de ce personnage extraordinaire. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, eh bien, une partie, enfin, le livre arrive.
C'est lui qui a été dans les archives du Vatican.
Non.
C'est pas le Rav Moshe Harlap.
Non. Tu fais allusion au Rav Kapar.
C'est Menaché. Au
Rav
Kapar.
Ah, au Rav Kapar.
Et le Rav Harlap vient de Pologne, le Rav Kapar vient du Yémen.
Le Rav Menaché, il est calé aussi.
Pas vraiment le même style. Harlap.
Une rue à son nom.
Oui, une rue à son nom, évidemment. Ret, Reich, Lamed, Tchoupchik. C'est très guillemets comme ça. Et P. Parce que c'est un nom de famille bizarre, parce que c'est un nom de famille qui est en fait des initiales. C'est-à-dire, Harlap, c'est, si je ne me trompe pas, c'est Chacham Rishon, les rabbinés Pauline. C'est une famille particulière. En tout cas, quand il reçoit le manuscrit de Reish Milin, Rav Harlap dit, incroyable, comment est-ce que tu as pu écrire un truc comme ça, qui n'est que Kabbalah et voir un Kodesh, là-bas. Il dit, En Safek, qu'il y a un tsinor qui te relie à Eretz Israël. Parce que sinon, tu n'aurais pas pu écrire un texte comme ça là-bas. C'est-à-dire, donc c'est ce qu'il me dit ici, le Rav Kook, ça continue cette péoula, même si tu dois sortir en fait ça là. Hare gam anevoa, kshechala kvar be'eretz Israël, eina poseket gam bechutza la'aretz. Ayo aya devar Hashem el cheskel be'eretz kasdim, ayo mipne shekvar aya. Et il y a fait, tu as appris qu'en Khoutzalat, il n'y a pas de névoie. Dis le Rav Kook, la névoie, c'est en Eretz Israël. Mais lorsqu'elle a commencé en Eretz Israël, eh bien, elle, si la personne, le Navi, part en roule, ça peut continuer.
C'est une
origine limitée. Je ne sais pas, je n'ai pas vu le contrat, mais il nous donne ici un exemple. Ayo aya dvar Hashem el Yecheskel be'eretz kasdim. Donc Dieu parle à Yecheskel à Babylone. Alors nous dit le Rav Kook, pourquoi? Parce que Ayo, Mipne, Shekvar, Aya. Comme il avait commencé à parler à Yecheskel en Eretz Israël, alors il lui a parlé également là-bas. Mais la vérité, c'est que tu connais d'autres exemples. Yona. Yona, un avis. Dieu lui parle quand il a Ninvé.
En fait, c'est pas une généralité. C'est des personnalités.
Parce que c'est, non, mais pourquoi c'est pas une généralité? Parce qu'il y a très peu de prophètes qui sont sortis d'Eretz Israël. Tu prends la liste des prophètes, l'écrasante majorité, ils sont restés toute leur vie en Israël. Il y a très peu qui sont partis.
Il n'y a pas de prophétie en France, là. C'est un truc clavier.
D'accord. Il n'y a pas de prophétie en France, là, arrête, sauf si elle a commencé déjà en Israël.
Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a. C'est de l'IA ou il n'y a pas?
On te dit, il n'y a pas de prophétie en France, là, arrête. Sauf si cette dernière a déjà commencé en Eretz Israël.
Mordechai, ça avait commencé en Eretz Israël.
Et Mordechai, d'où tu as vu qu'il était prophète?
Esther. Ah, pas de prophétie.
Il y a marqué Kohamar Hashem et Yechesel Esther.
Dans les livres de Yamim, on ne parle pas d'Esther.
Il y a la Megillat Esther déjà. Et dans le Tanakh.
Ouais.
Ok. Mais. Mais
Mordechai qui... n'avait pas le roi HaKodesh.
Bien sûr qu'il y avait le roi HaKodesh.
Oh, le roi HaKodesh, il avait commencé en Israël. Or, il est venu après.
Si tu dis que Mordechai, c'est quelqu'un qui faisait partie d'Eretz Israël et que c'est là qu'il a reçu son roi HaKodesh, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'il est jeune quand il part d'Eretz Israël. Il est très jeune. C'est-à-dire, chez Roglam Yerushalayim, il était, enfin, tu fais le calcul, il devait être très jeune. Mais l'homme est jeune. Il y a la prophétie en Eretz Israël ou alors... En Khoutz Laaretz, si ça a commencé en Eretz Israël, ou alors si c'est pour Eretz Israël, pour faire revenir. Ok ?
Oui,
il y a
deux prophètes en tout, qu'on a gardés.
Qu'on a leur nom.
Qu'on a leur nom qui sont.
Ceux appelés par leur nom, on en a 48 hommes et 7 femmes. Mais en tout, il y en a eu 1 200 000.
Waouh !
Me dit la Gemara dans ma Masechet Megillah que dans toute la période de la prophétie, qui a à peu près 1500 ans de prophétie, eh bien, on a eu Kiflaim Keyotse Mitzraim de prophètes. On a eu plus, le double de prophètes que de gens qui sont sortis d'Égypte. Donc, si on admet qu'on est sorti à 600 000, c'est-à-dire qu'on était en tout 1 200 000 prophètes, pas tous en même temps, hein, pendant les 1500 ans de prophétie. Alors, attention, tous les prophètes ne se valent pas. Il y a un prophète de quartier, puis il y a un prophète d'État, tu vois, c'est pas pareil.
Nous. Il y a Abraham.
Oui, évidemment, Abraham, Abraham, c'est pas un petit prophète.
Il y avait des écoles de prophètes.
Alors, on a dit, c'est vrai, j'ai dit soit, le clan, il est simple. En Eretz Israël, ou alors en route s'arrête si ça a commencé en Eretz Israël, ou alors pour Eretz Israël. Abraham, c'est exactement le cas. Parce que qu'est-ce que Dieu lui dit en route s'arrête? Non, pas du tout. Ça ne lui dit pas en route s'arrête. Il lui dit va en Israël. C'est la prophétie qu'Abraham reçoit en dehors d'Israël, c'est va en Israël. Après, en Israël, Dieu n'arrête pas de lui parler. Ça a l'air. Ok, donc Rabotai, Ayo Mipne Shikva Aya. Donc ce tsinor continue même lorsque si jamais tu es en route l'arrête. Par exemple, oui.
On peut donner un pourcentage dans la population du nombre de prophètes par rapport à.
C'est un bon travail que tu peux faire pour la semaine prochaine. Non, j'en ai aucune idée parce que je ne sais pas quand il y a eu combien et à quel moment. Non,
on a chiffré le nombre
surtout. Mais... Sur 1500 ans d'histoire. Après, je n'ai pas d'autres infos. C'est-à-dire, donc, je ne peux pas te dire. Mais la prochaine fois, sachez-le, que vous êtes appelé à aller en Khoutzlaret pour le travail, pour je ne sais pas quoi, sachez que vous êtes toujours Mechoubarim à la Kdusha et Roi HaKodesh de Ratisraël. C'est-à-dire ? Et c'est pour ça qu'à mon avis, c'est très important que si jamais vous allez en Khoutzlaret, vous devez, au moins une fois, transmettre la Torah d'Eretz Israël là-bas. À un ami, à un cours, à une synagogue, comme jamais. Parce que vous avez un tsinor extraordinaire, il faudrait peut-être en faire profiter les gens. Ok, c'est chachou.
Ça veut dire qu'on pourrait venir en Israël, repartir, on a toujours le kécher avec Israël et vivre en
cours. J'ai pas compris, tu repartir... Ah, non, c'est pas taout. Si tu as décidé de partir, c'est pas taout, c'est assour. Si tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Par exemple, je n'ai pas de parnassa. Si je n'ai pas de parnassa, je n'ai pas de parnassa. Ok ? Mais si tu as le choix et que tu décides de partir, c'est issour. Issour, on ne va pas te faire une fleur parce que tu transgresses la Torah. C'est vrai ? Tov. Shifat kodesh. She'utrela be'eretz Israël, c'est ce qu'on vient de dire, le fait que ça a commencé quand tu étais en Eretz Israël, mais la quête était et kol birure a kodesh animtsaim bechutz la'aretz bechol ha'ma'amakim. Ça, c'est très important. Tout c'est le fait que tu parles kodesh animtsaim bechutz la'aretz bechol ha'ma'amakim, ce qu'on appelle plus simplement l'ikut ha'nitzotzot. C'est-à-dire, comment est-ce que tu es capable de le Eretz Israël. Le laquette, c'est-à-dire recueillir, cueillir, ramasser les étincelles de sainteté qu'il y avait en Khoutz Laaretz. Comment est-ce que tu peux le faire? Parce que tu es attaché au Roi HaKodesh d'Eretz Israël. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui n'a pas cette attache à Eretz Israël, il ne peut pas faire Birur HaNitzotzot. Caché. Il y a des grands rabbanim qui n'ont jamais mis les pieds en Eretz Israël. C'est ma Corée. On va voir. Or, ma Corée, Itam. Ou me karavtam bekocha moshech elea. Et des fois, eh bien, c'est justement le fait d'être capable d'élever les étincelles de sainteté qui vont finalement les rattacher encore plus à Eretz Israël et un jour peut-être revenir. Comme tous ces gens qui sont des Israéliens qui sont partis en Khoul et qui continuent à s'acheter du houmous pour Shabbat. Ça m'attache. Quelque chose. Hercheu.
Le goût.
Le goût. Kol ma shekashé yoter. Ça, c'est ce que tu disais. Kol ma shekashé yoter. Lisbon est à avir. Shel chutz al haaretz. plus c'est dur de respirer l'air de Koutzlaret, comme tu dis, j'arrive à l'aéroport, ça va pas. Kol ma shemargishim yoter et ruach hatum'a shel adama temea, zeu siman leklita yoter penimi shel kdushat eretz Israël. La personne qui arrive à l'aéroport en roule et qui se sent pas bien, et qui sent qu'il manque quelque chose, qui sent qu'il y a un problème, plus il le ressent, plus ça veut dire que sa neshama, elle est théora. Théora. Elle est pure. Et moins il le ressent, plus il est bien quand il arrive en roule, ah, plus ça veut dire qu'il y a un problème avec sa neshama.
Y compris les vacances.
Y compris les vacances. Tu peux aller en vacances. Hachéla, est-ce que c'est tu te sens bien parce que c'est roule ou tu te sens bien parce que tu t'es détaché un petit peu? C'est deux choses différentes. C'est-à-dire, il y a deux personnages qui ont vécu plus ou moins la même situation mais qui ont réagi différemment. D'un côté, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch et l'autre, le Rav Kook. Les deux se sont retrouvés en Suisse. Le Rav Hirsch est parti en Suisse en vacances, à la montagne et tout. Et quand on lui a dit, il était dans les montagnes de Suisse, et là il a dit, quand Dieu me demandera là-haut, est-ce que j'ai regardé un peu ton monde, eh bien je lui dirai, ouais, j'ai été en Suisse. J'ai vu le monde d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsque le Rav Kook était en Suisse, il était malheureux comme les pierres, et là, son hôte, M. Kimri, l'a emmené faire un petit tioul dans les montagnes de Suisse, et là il s'est mis à pleurer. Il a vu les montagnes de Suisse et il a dit « Yerushalayim harim savivla ». Jérusalem est entouré de montagnes. Et moi, je suis en train de regarder les montagnes de Suisse. C'est la différence de Neshama. OK ? Donc, plus tu es impacté par le fait que tu es là-bas, et plus ça montre quelque chose sur ton identité. יותר רצון, זהו סימן לקליטה יותר פנימית של קדושת ארץ ישראל לחסד עליון, אשר לא יעזוב ממנו מי שזכה להסתופף בצלצלח של ארץ ישראל, של ארץ חיים. C'est des mots très chériim, liriim. Il dit, celui donc qui n'arrive pas à gérer d'être là-bas, c'est chesed elyon, c'est une grande bonté qui vient de là-haut. Asher lo yaazov mimenu, qui n'abandonnera jamais celui qui a réussi à atteindre la dimension de Eretz Chaim. Eretz Israël, c'est Eretz Chaim. Gam beitrachako venoto. Même si l'homme en question, il doit partir d'Eretz Israël et l'anoud, c'est-à-dire de partir de pays en pays, de génération en génération. Donc le mec, à un moment donné, ses petits-enfants, ils ne sont même plus nés en Eretz Israël. Ils n'ont même pas vécu en Israël.
L'anoud, c'est
Eretz. Eretz, exactement. Ils sont même plus, ils ont jamais vécu là-bas. Gam begaluto ve'eretz nediduto, eh bien, il sera toujours raccroché. Hazarut shemargishim bechutz la'aretz, arei mekasheret yoter et kol cheshek haruach ha'penimi le'eretz Yisrael ve'kedushata. Hatzipiya lirota mitgaberet ve'tziur chakikat tavnit קודש של ארץ אשר עיני השם בת תמיד מראשית השנה ועד אחרית שנה מתעמקת יותר ויותר. Lorsque donc tu es dans cette errance en חוץ על הארץ בגלות, et bien on te dit azarut, le fait qu'on ressente qu'on n'est pas chez nous, voilà, ce sentiment d'être un étranger sur une terre étrangère, et bien c'est ça qui garde ton attache avec Eretz Israël. À partir du moment où tu te sens heureux comme un juif en France, pour paraphraser un documentaire sympathique, t'as rien compris.
Donc l'antisémitisme, c'est bien.
L'antisémitisme, c'est mal, parce que c'est pas bien de faire souffrir les gens. Mais l'antisémitisme joue évidemment un rôle. On préférerait ne pas passer par l'antisémitisme. Donc c'est mal. Mais ça joue un rôle, évidemment. OK ? Donc, Kerol, Stamarich, Oter, Zar, plus tu te sens étranger à l'endroit où tu es, et plus ben, ce lien avec Eretz Raïm, il est vrai, agar entre parenthèses, plus tu te sens bien là où tu es, plus tu disparais. Bien sûr. Alors, les communautés qui finalement ont atteint une osmose culturelle avec le pays dans lequel ils étaient, se sont assimilés. Hein ? Oui, c'est exactement. C'est exactement ça. Il y a un documentaire qui est passé en plusieurs épisodes, j'ai pas tout vu, j'en ai vu un, sur les Juifs des États-Unis. Là, très récent. Et tu vois les mecs, ils sont américains. God bless America, quoi. C'est-à-dire ?
C'est américain avant des Juifs.
Ah, mais complètement. Complètement. Le drapeau qui flotte sera le drapeau américain. Et Israël, wow, c'est bien, c'est sympa. C'est vrai, tu vois où va la communauté américaine. OK ? ומתעמקת יותר ויותר ויותר תשוקת הקודש של חיבת ציון של זכירת הארץ שכל חמודות בה כשורות כשהיא מתגברת בנשמה אפילו יחידית הרי היא עושה פעולת נביאה מעיינית לכל הכלל lorsque les gens se réveillent à cela donc au fin fond de l'exil ça a une action de c'est comme une source qui donne de l'eau en profusion et ça remplit des piscines entières. Les ravavot nishmot akshurot ima kol shofar shel kibbutz nidachim mitorech galuyot du rassemblement d'exilés son verachamim rabim mitgaberim vetikvat chayim leisrael mitnotzetzet. Et donc tout se réveille. Vetzemach Hashem olech uporeach. ואור ישוע וגאולה מתפצל ומתפשט כשחר פרוס על הערים. En gros, la Géoula. Eh bien, tout ce qu'on vient de dire, c'est réalisé de manière très concrète. Ce sera ma dernière phrase. Il y a deux personnes qui, au fin fond de l'exil, je le dis souvent, mais ça rentre, au fin fond de l'exil, étudient Torah ta Kabbalah, sont reliées avec ce fameux Tsinor dont on n'arrête pas de parler. L'un, au fin fond de l'Ukraine, il s'appelle Rabbi Israël Baal Shem Tov. L'autre, au fin fond de la Lituanie, il s'appelle le Gaon de Vilna. Et les deux arrivent à la conclusion qu'il faut envoyer les élèves en Israël. Et donc, on envoie les élèves en Israël. Vazma, eh ben, ça renforce le Yishuv. Ça renforce le Yishuv en Israël, Yafé, ce qui va permettre à Moshe Montefiori, lorsqu'il arrive, d'avoir des gens à renforcer. Et donc, comme il a renforcé encore un peu plus, ça va permettre en 1882, enfin non, d'abord à l'organisation de Chobev et Tzion de voir le jour parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Et puis après, cette organisation, elle va montrer qu'on peut. Donc, il va y avoir en 1882 la première alia. Et puis après, il y aura la deuxième alia. Et puis après, il y aura la troisième alia qui va amener à 100 000 juifs habitants en Israël, ce qui va amener aux Anglais, lorsqu'ils conquièrent le pays, à proposer la déclaration Balfour parce qu'il y a 100 000 juifs en Israël. Donc, l'idée d'un État juif, et quelque chose qui est audible. S'il y avait eu 100 juifs, on n'aurait pas parlé. Et donc la déclaration Balfour va amener une autre vague d'alia et une autre qui va arriver finalement au vote des Nations Unies parce que il y a 450 000 juifs avant la Shoah en Israël, il y en a 600 000 en 1947. Et donc, et ben finalement, ça amène à la création de l'État d'Israël, à la Géoula, parce qu'il y a deux personnes qui étaient attachées au Tsinor de l'État d'Israël et qui ont commencé à bosser comme une source qui remplit des piscines. חזק ובאו.